M'exécuter. Laurent m'attend, assis sur le canapé. Je l'aperçois en refermant la porte de l'appartement. Il m'observe sans rien dire, me regarde poser mes clés et mon sac à main, enlever mes chaussures. « Ça va, ma chérie, tu as passé une bonne journée ?»« Pas mal de travail, mais ça va. Et toi ?»«
Moi, je suis dévastée. »«
Mais tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi tu as fait ça. »«
Fais quoi ?»«
Me déchirer le cœur. »«
Qu'est-ce que j'ai fait ?»«
Ne joue pas les innocentes, tu le sais très bien. » »«
Non, je ne sais pas. »
Et en plus, tu me fais passer pour un menteur? Laurent, explique-moi pourquoi tu me dis tout ça. Il tourne toujours autour du pot pour me faire avouer les choses, pour me faire comprendre qu'il souffre et que c'est de ma faute. Mais là, en l'occurrence, je ne comprends pas de quoi il parle. Il ne dit rien et me regarde, avec des yeux tristes, mais d'où jaillissent des éclats de haine. C'est la première fois qu'il me regarde ainsi, et cela me glace le sang. Je crois que j'ai peur. Peur de lui, de ses réactions, peur de savoir ce qu'il me reproche. Il sort alors une lettre de derrière son dos. Je la reconnais immédiatement. Le timbre comporte une grosse fleur comme sur les lettres précédentes. Elle est ouverte. Il l'a lue. Je me sens soudain très mal, agitée par des sentiments mêlés. Je me sens trahie et je me sens coupable. C'est donc cela qui le met dans cet état. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette lettre. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal en répondant à mon patient. C'est une lettre pour moi ?
Tu me dégoûtes à continuer à jouer les innocentes.
Je peux la lire ?
Non.
Il a répondu très sèchement. D'habitude, il garde toujours son calme. Cette fois, j'ai senti l'agacement et la brutalité de la réponse m'a fait sursauter. Je me rends compte que cette lettre, j'ai envie de la lire, qu'elle m'est adressée et qu'il n'a pas le droit de se l'approprier, encore moins de m'empêcher de la lire.
Non, parce que c'est moi qui vais te la lire. Tu veux bien ?
J'ai le choix.
Non, en effet, assieds-toi.
Je m'exécute. Il m'exécute.
Ma chère Juliette.
Eh bien, tous tes patients te le rendent aussi bien? Tu leur fais quoi pour que vous soyez aussi intimes en quittant l'hôpital?
Tu les suces ou bien?
Je sens les larmes me monter aux yeux, car je sais qu'il en sera ainsi tout au long de la lettre, et qu'il va la salir, la piétiner, me salir. Je pense à Roméo qu'il va salir et piétiner par la même occasion, et qu'il ne le mérite pas.
Vos lettres me font toujours le même effet, celui d'avoir envie de progresser, d'aller mieux, de me battre, pour vous prouver que vous aviez raison. La vie vaut le coup d'être vécue. Comment un homme peut-il vous faire languir pour vous demander en mariage? J'avoue ne pas comprendre, surtout vous. Je vous trouve tellement extraordinaire.
T'es allée lui raconter que je ne voulais pas me marier avec toi?
C'est la vérité. Tais-toi!
Ça te fait plaisir de me faire passer pour un bourreau sans cœur? Tu penses vraiment ça de moi?
Je t'ai posé une question.
Non.
Mais il faut dire que... Tais-toi, c'est pas fini!
Quant à ce désir d'enfant, vous allez le combler, j'en suis certain. La vie vous enverra un beau bébé, elle ne se trompe jamais, même si le parcours est parfois difficile.
Parce que tu lui as aussi parlé du parcours de PMA?
Tu lui as expliqué que j'allais me branler dans un cagibi tout seul face à un mur blanc parce que tu es fichu de travers?
Tu lui as dit ça?
Non, évidemment.
Peut-être même lui as-tu fait croire que c'était moi qui n'étais pas capable.
Non, je te promets.
Je n'arrive même plus à te croire.
Je prends soudainement conscience à quel point il a dû être difficile pour vous d'accompagner ma petite sœur pour son IVG. Vous vous battez pour en avoir un, et elle vous demande la bouche en cœur de l'aider à arracher le sien de ses entrailles. Je suis vraiment désolée, vous n'auriez pas dû vous proposer, nous aurions trouvé une autre solution.
C'est quoi cette histoire d'avortement?
C'est quoi cette histoire d'avortement?
Sa petite sœur de 14 ans est tombée enceinte. Il ne pouvait pas l'accompagner, je l'ai fait en tant que personne de confiance.
14 ans et enceinte? C'est une salope, sa petite sœur. Tu corresponds avec le frère d'une petite salope.
Laurent, arrête.
Oui, j'arrête, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, ensuite, il te raconte son histoire. Et c'est tellement inintéressant que je n'ai même pas lu jusqu'à la fin. Sauf qu'il t'embrasse.
Il te fait autre chose aussi?
Non.
Alors écoute-moi bien, Juliette. Tu vas prendre une feuille et un stylo, et tu vas lui dire que ce n'est plus la peine qu'il t'écrive. Parce que ton mari...
Pardon. Ton compagnon n'est pas d'accord, et qu'il pourrait bien prendre des mesures coercitives si ça devait se poursuivre.
Mais nous ne faisons rien de mal.
Tu me trahis, tu me plantes un couteau dans le dos, et à part ça, tu ne fais rien de mal.
Je me demande même si j'ai envie d'avoir un enfant de toi. Et arrête de pleurer comme une gamine. Tu lui écris cette lettre ou tu t'en vas, c'est clair?
C'est clair.
Sur ce, je vais me coucher. Ce n'est pas la peine de venir me rejoindre. Cette nuit, tu dors dans le canapé. Je n'ai pas envie de te voir. Il s'en va en me lançant le même regard menaçant. Je suis désespérée. Il me piège avec son ultimatum. Je ne me sens pas le courage d'écrire cette lettre à Roméo. Je n'ai pourtant pas le choix. Sinon, je perds Laurent et je lui brise le cœur. J'ai cependant besoin de lire la fin de sa dernière lettre, puisque ce sera la dernière. Notre histoire pourrait paraître caricaturale, et pourtant je me suis vite rendu compte que nous n'étions pas les seuls dans ce genre de situation. Notre mère est une femme faible et fragile. Elle a mal tourné à la fin de l'adolescence et a violemment plongé dans des addictions de toutes sortes, tabac, drogue et alcool. Son petit ami de l'époque faisait partie des drogués du quartier. Forcément, elle est tombée enceinte. Il fallait s'y attendre. Elle a quand même réussi à prendre soin de moi, une fois placée en unité d'addictologie, puis suivie par un réseau spécialisé dans les dépendances. C'est quand mon père est parti qu'elle a dévalé la pente. J'avais 10 ans. Elle a sombré à nouveau dans la mauvaise soupe dont le réseau avait réussi à la tenir éloignée. Autre compagnon, autre drogue, l'alcool pour celui-là. Vanessa est née. Quand son père était à peu près sobre, notre vie était presque normale. Même si maman restait très fragile et toujours très dépendante de ses addictions. Il m'arrivait d'essayer de la réveiller pendant plusieurs minutes quand j'étais inquiet de ne plus l'avoir bougée depuis trop longtemps. Ça marque un gosse de vivre des choses comme ça. J'ai très vite appris à me débrouiller tout seul, pour aller à l'école, pour faire quelques courses en rentrant, préparer un repas à peu près correct. Mais Vanessa pleurait beaucoup. La première fois où j'ai vu mon beau-père la secouer pour qu'elle se taise, j'avais 11 ans et demi, j'étais en 6e, et j'avais la tête d'un adulte sur des épaules d'enfant. Je comprenais ce qui se passait. Je savais que si je m'interposais, il était capable de me balancer contre le mur. Une mauvaise chute, je n'aurais plus été là pour protéger ma petite sœur. Alors la deuxième fois, je l'ai filmé avec un petit appareil photo que j'avais gagné à la tombola de l'école. Et je suis allée en parler à la CPE. Je lui ai dit qu'il fallait me prendre au sérieux parce que c'était grave et que j'aimais ma petite sœur. Quand la CPE a vu la vidéo, tout a été très vite. Nous sommes partis d'abord dans un foyer, puis en famille d'accueil. Au départ, nous étions ensemble et puis on a été séparés. Et j'ai été mis à l'internat pour mes dernières années de collège. Et ensuite pour le lycée. Vanessa a grandi trop vite. Elle n'a pas connu l'insouciance d'une petite fille normale. Elle a enchaîné les familles d'accueil. À 5 ans, elle s'était déjà sauvée 2 fois avec sa petite valise. Vite rattrapée, évidemment. Moi, je savais ce que je voulais faire depuis qu'on nous avait placés en foyer. La caserne des pompiers était en face. Je les observais depuis notre fenêtre. J'avais parlé avec l'un d'eux. Je serai pompier professionnel. Je me suis engagée chez les jeunes sapeurs-pompiers volontaires dès que j'ai pu, c'est-à-dire dès le collège, et je me suis donnée à fond. À fond chez les pompiers. J'en pleurais parfois tellement les muscles me faisaient mal. Mais j'ai développé une force suffisante pour paraître 18 ans quand j'en avais que 15. Commencer tôt m'a permis de valider mes acquis et de passer le concours rapidement. À fond à l'école pour avoir mon brevet puis mon bac et réussir le concours de sapeur-pompier professionnel. Parce que j'avais une seule idée en tête en faisant tout ça, une seule. Devenir le tuteur légal de ma petite sœur et la prendre avec moi. Quand on aurait un chez nous, elle ne se sauverait plus. Pour ça, je savais qu'il fallait que je sois majeure et que j'aie un travail. Les démarches, je les avais un peu préparées en amont avec l'assistante sociale. Un amour de femme qui m'a soutenue jusqu'au bout. Désespérée de voir Vanessa monter progressivement d'un cran dans la violence lors de chaque placement dans une nouvelle famille d'accueil. C'est ainsi qu'un peu après mes 18 ans, j'ai eu mon concours, un poste et ma petite sœur. Tout s'est mis en place. J'ai trouvé un petit appartement pas très loin de la caserne et ma voisine, une femme qui vivait seule avec son fils, a accepté de s'occuper de Vanessa quand j'étais en service. Voilà, vous connaissez l'histoire. Pour la suite, eh bien, on va dire que je fais comme je peux. Mais je ne suis manifestement pas efficace sur tous les fronts. Pas sur celui de la contraception, en tout cas. Vanessa a grandi vraiment trop vite pour moi. Voilà, je m'arrête là, mon bras me fait terriblement souffrir, il n'a plus l'habitude d'écrire aussi longuement. Je vous embrasse, à très bientôt. Roméo. C'est pour ça qu'il s'est autant battu après son accident. Il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, le combat qu'il menait depuis des années pour accompagner Vanessa était perdu. Je le comprends maintenant. Je le comprends et je voudrais l'aider. Mais c'est devenu impossible. J'écris cette lettre. L'âme brisée en deux et le cœur en 1000 morceaux. Un peu plus tard dans la nuit, Je me réveille en sentant une main se faufiler entre mes jambes. Je comprends ce qu'il vient chercher. Je n'essaie même pas de résister. Vu ce qui s'est passé dans la soirée, c'est perdu d'avance. Je fais l'étoile de mer en regardant ailleurs, le laissant me prendre froidement, sans aucune tendresse. Ça ne dure pas bien longtemps. Mais ça fait mal. Très mal. Il repart immédiatement dans notre lit, et moi je reste là, recroquevillée dans le canapé, en pensant à la douceur des mots de Roméo et à la lettre que je m'apprête à poster demain. Cher toi, j'ai failli m'évanouir. Je m'en fous, il m'aurait réanimé. Nous sommes allés boire un café. Enfin, moi j'ai pris un coca. Je déteste le café, c'est trop amer. On a parlé pendant des heures, je crois. Oh, peut-être juste une, mais le temps est passé trop vite. Il a envie qu'on se revoie. Et quand nous nous sommes quittés, il m'a embrassée sur la joue beaucoup trop près de la bouche pour que ce soit un hasard. Il a dit que j'étais très jolie. J'étais presque aussi grande que lui avec les chaussures à talons que Charlotte avait chourées à sa mère. Je m'étais entraînée toute la soirée d'hier pour ne pas donner l'impression que je ne savais pas marcher avec ça. Tant pis pour les patins. Solange est venue me demander d'arrêter ce bruit de claquement sur le parquet, mais je ne lui ai pas ouvert la porte. Elle m'énerve. Elle envoie bouler son mari à longueur de journée, alors qu'il est gentil comme peu d'hommes. Une connasse mal baisée. Enfin, je dis pas ça contre Christian. Ça doit être elle qui sait pas en profiter. De son cul, pour être aussi coincée. Et puis, ça faisait à peine un quart d'heure qu'on s'était séparés qu'il m'a envoyé un SMS. Bon, je lui en avais déjà envoyé trois, mais il aurait aussi pu ne pas répondre. Je lui manquais déjà. Si tu savais comme je suis heureuse, si tu savais !